Le commentateur de football de demain, c'est d'abord un passionné. Il n'a pas forcément fait d'école de journalisme. Il a du style et il n'était peut-être pas né en 98. Ce qui est sûr, c'est que le commentateur de demain, c'est un compétiteur. Il va nous le montrer sur Canal+.
Trouver une nouvelle voie pour le foot, c'est le défi que se lancent Laure Boulot, David Ginola et Hervé Matou dans l'émission Au Micro, ce soir seulement sur Canal+.
Vous écoutez
RMC.
L'after continue jusqu'à 1h du matin ici en direct du Qatar. Kevin Diaz est là et Walid Acherchour nous rejoint. Walid, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut Walid. Voilà.
Walid, qu'on retrouve dans l'after, qualifié pour la 8e.
Exactement. En je suis un peu le Rémi Cabella en 2014.
C'est sa première titularisation en Coupe du Monde.
Exactement.
Bah, il faisait la gueule, il n'y avait pas l'Algérie. Du coup, alors, c'est l'histoire du Cameroun, on appelle Walid.
En plus, c'est bien, tu l'appelles un jour où le Cameroun est éliminé, même s'ils ont battu le Brésil.
Ouais, on a participé à la victoire du Cameroun ce soir, quand même.
Ouais, quel match de Bel Ali encore ce soir.
Il y a une part d'Algérie ce soir.
Il y a au moins un drapeau, c'est sûr.
Ah bon, on en a vu plein, nous, ici, attends. Il y a une grosse communauté algérienne.
Gilbert, sur chaque match du Cameroun, il m'a envoyé un message le matin avec une photo, etc. J'avais le droit à ma photo.
T'as mis le passement de jambe, enfin la fin de corps de Toko Ekambi, là, à la 82e, je crois.
Qui ça?
De Toko Ekambi.
Ah, non, j'ai pas vu ça. J'étais sur Service Suisse, moi.
Bah évidemment. Jusqu'à 1h du matin, on est là, puisque la libre antenne arrivera tout à l'heure avec Nico et Thibaut. L'after, bien sûr, l'émission qui dit tout, ce que le monde du football pense tout. Bah, vous le savez, en direct de notre studio ici au Qatar. On a des invités, comme tous les soirs. C'est vrai que le studio de l'after est ouvert à tout le monde. On a notamment un contributeur de la revue de l'after, qui est là. Eh oui, Olivier Goldstein. Bonsoir.
Bonsoir.
Un papier, une contribution dans le dernier numéro de la revue, hein, sur la Coupe du Monde 98. On va en reparler tout à l'heure. Et t'es venu avec Emmanuel, qui est supporter de l'équipe de France. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez vu des matchs, les gars ?
Salut, les gars.
Salut, les gars.
Eh ben ouais, t'es arrivé avant-hier. On a vu France-Tunisie en descendant de l'avion. Hier, on a vu Belgique-Croatie et on a vu Lukaku de louper ses 5 actions devant nous. C'était juste hallucinant. Ouais. Et là, on était à Ghana-Uruguay avec ce but des Coréens à la fin qui change tout. Donc c'était et le Ghana qui chantait Coréa-Coréa à la fin quand même. C'était assez incroyable.
Ah, mais je pense que le Ghana, il voulait se venger de l'Uruguay d'il y a quelques années. Et on en parlera tout à l'heure, mais ils ont tout fait pour les planter.
Ah, je pense que le gardien à la fin, il gagnait du temps. C'était un truc de fou. Il perdait 2-0, mais il gagnait du temps comme si c'est lui qui gagnait 2-0. Quoi. C'était,
voir Suarez pleurer sur le banc des remplaçants, je pense que ça a été une consolante pour les Ghanéens.
Un peu, je pense aussi.
Par contre, l'écran de la VAR, il n'en est pas ressorti indemne de ce match. Je ne sais pas si tu as vu l'image, Gilbert.
Ah, il y en a un qui a cassé l'écran de la VAR.
Ouais, je crois que Cavani lui a mis un petit coup d'épaule à l'écran de la VAR.
Bon, pas très sympa. Même si la VAR, on l'aime pas, hein, de façon générale, dans l'after. Et là, vous avez encore, demain, encore un autre match ?
Peut-être Australie-Argentine demain.
Ouais, mais vous avez rentabilisé, vous êtes fort. Hein.
Et les Bleus dimanche.
Et les Bleus dimanche, exactement.
Oh, c'est un gros programme. Bon.
Pour l'instant, ils n'ont vu que des surprises, donc je ne sais pas si...
Ouais, vous allez vraiment à l'équipe de France dimanche, j'étais sûr.
Franchement, la Pologne, ce serait vraiment une très, très, très grosse surprise. Hein.
C'est vrai.
Pire que la Suisse, c'est vrai. En 2000.
En tout cas, moi, j'ai vu jouer la... Alors, pour moi, l'Argentine, j'ai regardé la Pologne ces trois matchs, ce que je n'avais pas fait avec la Suisse. Et franchement, c'était très faible. Hein, contre
l'Argentine. Non, mais on est d'accord.
Non, mais complètement. Ouais, ça semble être un match déséquilibré. Enfin, c'est vrai que là, on voit quand même des surprises assez dingues. Alors, pour l'instant, l'expérience Coupe du Monde, Emmanuel, qu'est-ce que t'en penses ?
Bon, on est arrivé avec beaucoup de questions dans la tête. Ouais. Pour l'instant, après trois jours ici, on est surtout bluffé par l'organisation. Je ne rentrerai pas dans les polémiques, etc. Mais sur la partie vraiment organisation pure, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ils mettent les moyens, hein, quand on n'a pas de problème d'argent, c'est plus simple. Mais c'est vraiment impressionnant. Et les stades sont magnifiques. J'ajouterais ça, c'est vraiment... on est content d'être là. Voilà. Enfin, le premier bilan, il est surtout celui-là.
Olivier, pareil ?
Ouais, pareil, c'est vrai que tout est simple. Et on se disait en arrivant ici là, à votre studio qu'ils chantent tous les employés chantent tous Metro This Way.
Oui, effectivement.
On se disait qu'à Paris 2024, ils pourraient faire des concours de hip-hop peut-être dans la rue pour dire le métro c'est par là, etc. C'est vraiment bluffant d'être aussi, d'avoir autant de monde qui soit là pour nous aider à trouver notre route, quoi.
Oui, c'est vrai qu'au niveau organisation, pour l'instant, il n'y a pas de d'écart. Si, il y a eu quelques problèmes de billetterie. Ça, il y en a eu des problèmes de billetterie, avec des billetteries qui ne marchaient pas. Et finalement, les gens sont rentrés parfois sans billets. On a même eu des témoignages de supporters marocains. Qui arrivait en groupe devant les stades et qui, en gros, attendait que le match démarre, puis qui après allait voir les gars, disait, bon, allez, faites-nous rentrer, soyez sympas, il reste des places, et hop, on les faisait rentrer en mode, allez, c'est bon, on vous a pas vu.
Donc, non, on nous voit pour l'instant, donc on n'a pas fait ça.
Bon. Après, ils ont que 3 lignes de métro, on en a 14 quand même. Bon. Quand même.
Les leurs sont plus propres.
Ah oui, ça c'est vrai, avec zéro tag d'ailleurs. Mais bon, elles viennent d'être créées, hein, donc c'est tout neuf. Il faut revenir dans quelques années. Bon les gars, bah, participez au débat avec nous. Vous avez vu les matchs, vous étiez à Ghana-Uruguay, c'est intéressant. On va démarrer sur les matchs qui viennent de se terminer là, Walid et Kevin, et notamment sur ce Brésil-Cameroun. Je disais tout à l'heure, Tite, il a fait du Deschamps en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il a pris le match par-dessus la jambe. Enfin, comment vous le voyez ? Moi, je l'ai vu comme ça en tout cas.
Avec un peu plus de cohérence dans la composition d'équipe quand même. Ouais.
Non, oui. Moi je trouve pas
c'est
du
vrai
tout.
Qu'il a pas mis, il avait pas Dizazi en même temps.
Ouais. Non, moi je trouve pas du tout que le Brésil. Oui, on parlera peut-être tout à l'heure du Portugal. Je trouve pas du tout que ce sont deux équipes qui ont pris le match par-dessus la jambe. C'est des équipes qui ont fait tourner leur effectif, mais qui avaient des équipes très cohérentes avec des joueurs à leur poste. À part bon après la blessure d'Alex Telles, Marquinhos qui a dû rentrer arrière gauche, mais ça c'était un peu contraint et forcé. Mais et c'est vraiment ce qu'on disait hier en souriant. Avec Nico Jamin, je suis désolé, mais moi j'adore cette expression. Il y a que le football pour nous procurer des sensations, des émotions comme ça. C'est-à-dire que là, on vient de voir 4 matchs où une équipe largement inférieure, non seulement sur le papier, mais même sur le terrain, dans le jeu, a arrivé à gagner la rencontre, quoi. La Corée, le Cameroun, le Japon, le Costa Rica, ils ont failli battre les.
Ah, ajoute la Tunisie alors.
La Tunisie, oui, j'allais le dire. La Tunisie, c'est vraiment des équipes qui, que ce soit dans le jeu et sur le papier, étaient bien en dessous et dans 3 jours. 4 fois 90 minutes, cette équipe-là, elle gagne. Avec, je crois, pour le Japon, même pas 20% de possession de balle. Donc, alors on me dit, OK, il n'y a pas besoin d'avoir la possession pour gagner, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est quand même un des rares sports où un tel écart de niveau, même sur une rencontre, et elle arrive quand même à déboucher sur une victoire.
Et Kevin, surtout pour la Tunisie et le Cameroun, parce que il n'y a pas qualification en bout, mais c'est quand même des victoires de prestige. Gagner en Coupe du Monde contre la France et contre le Brésil, pour la Tunisie et le Cameroun, c'est quelque chose d'historique, et je pense qu'on en parlera pendant très très longtemps. Après, pour revenir sur le Brésil, les matchs du soir, Gilbert, j'ai quand même eu l'impression, si on doit comparer avec l'équipe de France notamment, que déjà il y avait un peu plus de cohérence et que il y a eu énormément d'occasions côté brésilien. C'est,
je vais pas dire plus que la France.
Voilà, je vais pas dire que c'est un braquage des Camerounais, mais presque, parce qu'ils sont tombés sur le sosie de Saber Desfarges dans les cages qui a été encore extraordinaire. À plusieurs reprises, il a sauvé les siens. Avant,
de façon peu académique.
Exactement. Avant le but d'Aboubakar, il y a un sauvetage de Christopher Wu sur un ballon très très chaud de Bruno Guimarães. Donc, clairement, ils ont eu les situations, le Brésil, mais le Cameroun a été plutôt solide. En tout cas, ils ont cru en leur chance jusqu'au bout. Et puis après, Aboubakar avec le Cameroun, t'es jamais à l'abri qui t'invente de la magie, et c'est ce qu'il a fait sur la fin de match.
Ah bah lui, ça a été le Camerounais du mondial, celui-là, parce qu'entre la louche contre la Serbie, où à mon avis il pense qu'il est hors jeu, donc il fait ça en se disant l'action est finie, allez voilà, bah, paf, et puis finalement ça fait but, et puis le but de ce soir, effectivement, c'est pas mal.
Et puis surtout il y a cette frustration de ne pas les avoir associés sur la fin de match contre la Suisse à 1-0, où sur les 20 dernières minutes Rigobert Song a fait du poste pour poste en changeant Choupo-Moting avec Aboubakar, alors que quand tu vois comment ils ont joué ensemble contre la Serbie et même ce soir, il y a cette petite frustration là côté camerounais.
On a avec nous Stéphane qui est un spécialiste du foot camerounais qui est là. Stéphane, bonsoir.
Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs et tout le panel.
Salut Stéphane.
Alors, je précise que Stéphane il également contribue à un site, à un compte Twitter qui donne toute l'actu du foot camerounais qui s'appelle @latanière237. Voilà, si vous voulez
on ira voir.
Avoir l'actu sur le Cameroun, allez voir ce compte
tout
Twitter.
À fait. Exactement, latanière237, latanière en un mot, 237, qui collait au mot latanière.
Dis-moi Stéphane, tu te dis quoi ? Victoire de prestige, magnifique, ou alors t'as des regrets parce que tu dis que la qualif elle était pas loin ?
Oui, bien sûr, victoire de prestige, déjà dans le sens où certaines personnes ne nous lançaient pas, ne nous voyaient pas sortir de cette poule au minimum avec un point. On était parti comme étant le tocard dans cette poule, mais on a répondu présent avec un groupe assez soudé. Je pense que dans l'ensemble, ça a été assez intéressant. C'est quand même le Brésil qu'on a eu en face aujourd'hui. Des regrets peut-être, parce que face à la Suisse, on aurait pu faire mieux. On a perdu 1-0 sur un coup du sort, notamment avec le but de Brelin Bolo, né à Yaoundé, grandi en Suisse. On pense quand même qu'on aurait pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Quand on regarde ce que les joueurs ils ont présenté face à la Serbie, je pense que ça nous laisse un petit goût amer, mais quand même, quand on sait qu'on a gagné le Brésil en face, il y a de quoi être satisfait, parce que le Brésil, c'est quand même l'un des grands favoris de cette compétition, et ça, il faut le dire.
C'est vrai que Stéphane, t'as raison. Il y a des sentiments partagés sur la poule du Cameroun, parce que moi, pour être honnête, je voyais pas le Cameroun faire grosse impression sur cette Coupe du Monde, et j'ai été agréablement surpris dans le jeu, dans le contenu. Déjà contre la Suisse sur la première mi-temps, ils ont tenu tête à cette équipe suisse, et j'avais trouvé que le résultat était plutôt bien payé pour les Suisses. Après, derrière, il y a ce match un peu foufou contre la Serbie, mais globalement, quand on voit ce qu'ils ont fait, notamment la dynamique qu'il y avait côté camerounais, et dans cette poule un peu homogène, avec trois équipes quand même très très solides. La Serbie avait battu le Portugal en éliminatoire, la Suisse a éliminé la France à l'Euro, et puis le Grand Brésil. Il y a quand même un visage très intéressant de la part du Cameroun sur ces trois matchs-là, même si tu peux encore avoir des regrets par rapport à ce match contre la Suisse, et même les 20 minutes contre la Serbie où c'est vraiment très très compliqué dans le jeu, du 1-0 notamment jusqu'à 3-1. Donc sentiment partagé, moi, Gilbert, du côté du Cameroun, parce que je ne m'attendais pas à ça, mais finalement tu te dis qu'il y avait la place. Il y avait la place.
Il y avait la place, oui et non, mais en tout cas, je pense que les Camerounais doivent être satisfaits de cette Coupe du Monde.
Bon, et tout avait dit avant la Coupe du Monde qu'il était venu pour gagner le Mondial. Hein.
Ouais, bon, d'accord.
On connaît Samuel.
Non, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on s'estime être une grande nation de football, on ne vient pas faire de la figuration. On va pas quand même rappeler le palmarès sur le plan africain du Cameroun. Donc, je pense que dans un certain sens, il peut se le permettre de le dire. Et puis, quand on regarde niveau organisation, quand même, on est sorti un petit peu de tout ce qui se faisait avant avec les soucis des primes, l'organisation et tout.
Enfin bon, il y a quand même eu l'histoire avec Onana. T'as l'impression qu'il faut toujours qu'il y ait une histoire.
Ouais, l'histoire avec Onana, mais bon. Je pense que là, il a fallu prendre des responsabilités. Et je pense qu'on a fait un trade là-dessus sur notre compte Twitter. Pour ceux qui veulent, vous pouvez jeter un coup d'œil, où on explique clairement ce qu'il y a eu pendant cette période-là. Donc voilà. Mais sinon, globalement, face à ces trois équipes, aux trois styles différents, parce qu'il faut noter également ceci, c'est que la Serbie est une équipe athlétiquement très complète. Ça a été très difficile avec eux. Les Suisses qui en face posent très bien le ballon avec des circuits préférentiels assez intéressants. Et le Brésil qu'on ne présente plus avec la qualité du jeu. Certains diront que ça a été l'équipe B, mais quand même une équipe B avec Rodrigo, Anthony, Martinelli, Fred, c'est quand même assez costaud. Donc aujourd'hui, il y a de quoi quand même être satisfait et se dire bon, voilà.
Et comme vous dites, Stéphane, ils ont montré une nouvelle fois que impossible n'est pas camerounais.
Voilà, vous connaissez l'expression, tout à fait. Impossible n'est pas camerounais. On l'a montré contre l'Algérie ou.
Est-ce que Aboubakar, il ne devait pas être titulaire tout le temps, Stéphane, même s'il n'avait pas fait une canne de dingue, mais.
Ah si, il a fait une canne de dingue. Il avait mis 7 buts.
À la fin, les Camerounais lui en voulaient. Aboubakar, comme on l'appelle au Cameroun.
Non, en fait,
enfin, s'il n'a pas fait une grande canne.
Aboubakar, en fait, Aboubakar, le souci avec lui, c'est que il a fait une canne exceptionnelle, mais les matchs qui ont suivi la canne, il est en manque de confiance. Il avait du mal à confirmer. Et puis, à côté, on avait un Choupo-Moting qui revenait au meilleur de sa forme, qui se découvrait une nouvelle vie. Donc, il fallait absolument faire un choix. Et je pense que le coach Rigobert, il a fait le choix qui se positionnait assez favorable pour lui, qui était celui de titulariser Choupo-Moting. Et puis, après, au final, on s'est rendu compte que les deux peuvent bien jouer ensemble.
C'est ça qui est frustrant, c'est que pour moi les deux choix qui peuvent, je vais pas dire te coûter la qualification parce qu'on va pas refaire l'histoire ce soir. Tu es quand même miraculé sur le match de remporter cette victoire, mais les deux choix, c'est bien évidemment pour moi le cas Onana, où je pense que contre la Serbie avec ce gardien là, je suis pas sûr que t'en prennes trois.
Et on sait pas vraiment ce qui s'est passé avec Onana.
Exactement, je pense qu'on va avoir quelques infos sur les prochains jours. Et la deuxième des choses, c'est cette association Aboubakar Choupo-Moting qui n'a pas été faite notamment sur le premier match, peut-être pas démarrer parce que Aboubakar avait quelques pépins, mais au moins terminer le match, comme je le disais au tout début de l'émission avec Gilbert, avec les deux, parce que aujourd'hui c'est ça la force du Cameroun, c'est d'avoir un Choupo-Moting qui est en très grande forme avec le Bayern, et il l'a montré sur cette Coupe du Monde, mais aussi avec un Aboubakar qui, à chaque fois qu'il met ce maillot du Cameroun, c'est un autre joueur. Il est habité par quelque chose, et t'as vraiment l'impression que n'importe quelle équipe, n'importe quelle défense ne lui fait pas peur. Donc moi, c'est vraiment ces deux choses là qui me frustrent un petit peu du côté de Rigobert Song. Pour cette Cameroun. cette équipe du Cameroun.
Stéphane, dis-moi, il faut faire quoi maintenant? Il faut garder Son comme sélectionneur ou faut reconstruire quelque chose de nouveau avec un nouveau sélectionneur?
Bon, en réalité, s'il faut se fier aux paroles du président de la fédération, Samuel Eto'o, on s'inscrit dans une continuité qui serait celle-là de préserver Rigobert Song comme sélectionneur. D'autant plus que ça faisait quand même à peu près 20 ans, le Cameroun n'avait pas eu une telle performance en Coupe du Monde. Je pense que en ce moment-ci, à l'état actuel des choses, la situation parle à son faveur et puis il serait de le conserver. Mais en revanche, ce qui est attendu du côté public, c'est que certains choix soient quand même assez explicites, soient quand même assez clairs. On a l'impression que certains joueurs ne sont pas sélectionnés sur la base de leur performance. Notamment quand on regarde la profondeur du banc de touche des joueurs.
Sélectionné sur quelle base alors, Stéphane?
Bon, quand on regarde la profondeur du banc de touche, on a des joueurs qui cette saison ils sont en manque cruel de temps de jeu dans leur club, au détriment de certains joueurs qui jouent. Donc du coup, le public qui se pose les questions, mais pourquoi est-ce qu'on a sélectionné un tel ou un tel, même si on sait que de manière générale, les listes ne vont pas toujours à chaque fois faire l'unanimité, mais au moins qu'on attend des explications de la part du sélectionneur Rigobert Song.
Stéphane, merci beaucoup. Je renvoie donc au compte Twitter @latanière237 hein, pour
la tanière 237. Oui, tout à fait. Et puis, un grand merci à vous et puis big up à toute l'équipe de la tanière qui contribue à participer de près ou de loin à ce que nous puissions pouvoir communiquer de bonnes informations sur les joueurs du Camerounais.
Salut Stéphane, bonne soirée.
Stéphane, sur la prochaine Coupe du Monde, on ira ensemble, l'Algérie et le Cameroun aux États-Unis. T'inquiète pas.
Ah ouais, je te le souhaite hein, avec Marais. Oui. Marais, sous promotif, ça peut être quelque chose d'intéressant.
Exactement.
Ça se trouve que vous n'irez ni l'un ni l'autre.
Bah, avec le nombre de pays, quand même, on va avoir un peu plus de chance quand même.
Bon, moi, je pense que Walid, il veut surtout qu'il y ait l'Algérie. Bon, s'il y a le Cameroun, il sera content.
Oui, voilà, on se retrouvera. Ouais. On se retrouvera.
Bon, le Brésil, les gars. Marcelin Chamois est en ligne avec nous depuis le Brésil. Marcelin, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir. Marcelin.
Marcelin, est-ce qu'au Brésil, tu penses que ça va gueuler ou est-ce qu'on se dit, bon, finalement, c'est pas si grave, un peu comme l'équipe de France, tu vois, on est premier et puis on a fait jouer les remplaçants, Daniel Vess est content. Enfin, toi qui connais bien le contexte local, à ton avis, qu'est-ce qui va se dire là dans les heures qui viennent?
Va y avoir quelques pessimistes, oui, parce que depuis le titre en 2002, à chaque fois que le Brésil tombe sur un Européen en phase finale, ils sont éliminés. Donc ça la défaite met quelques doutes, même si oui, l'essentiel était acquis avec la première place qui a été assurée, même si elle s'est jouée qu'un seul but au final. Et puis effectivement, c'était les remplaçants qui jouaient dans un contexte déjà qualifié. Donc on attend la suite maintenant pour voir comment ça va se passer.
Et écoute, Marcelinho, parce que tu me laisses t'appeler Marcelinho, ça fait un peu plus brésilien que Marcelin.
Oui, j'ai l'habitude.
mais tu penses pas quand même que le Brésil a raté une opportunité d'imposer sa patte et de mettre le tampon en mode « Hey les gars, venez pas nous chercher parce que même nos remplaçants, on peut pas les tester ». Tu vois, la France avait perdu, le Portugal vient de perdre, tu vois, l'Espagne avait fait un couac, etc. Pas mal des meilleures équipes avaient quand même...
Personne n'a fait 9 points.
Voilà, personne n'a fait 9 points du coup. Et le Brésil, c'était vraiment de mettre un coup de pression à tout le monde. Et on sait que ça marche dans ces grandes compétitions. Et finalement, ils ont quand même raté ce petit pas, même si, bon, dans l'ensemble, ils font un match correct hein, avec des remplaçants, mais quand même.
Tu peux répéter la question, désolé, j'ai loupé.
Je te demandais, est-ce que tu ne penses pas que le Brésil a manqué l'occasion de mettre un gros coup de pression à tout le monde en gagnant son troisième match, même avec les remplaçants?
Oui, il y avait l'opportunité effectivement d'être la seule équipe à 9 points, de ne pas prendre deux buts aussi, parce qu'ils n'avaient pas pris sur les deux premiers, là ils en prennent un. Après, je pas sûr que ça fasse la différence. Je pense que l'important aussi, c'était de donner du temps de jeu à des joueurs qui peuvent être utiles pour la suite. Ça peut être Anthony sur l'aile droite, parce que Rafinha, même s'il a été plutôt bon, je suis pas non plus complètement convaincu. Et puis Neymar, on sait pas aussi s'il va jouer les huitièmes de finale. Donc j'ai vu un beau match surtout en première mi-temps de Martinelli et de Rodrigo aussi. Donc ça peut être deux options en cas de forfait Neymar. Donc je pense que c'était ce côté intéressant pour le Brésil.
Pour conclure, Marcelin, qu'est-ce qu'on dit de Neymar? Là, il était en tribune, il paraît que ça va mieux, mais il est quand même très incertain pour les huitièmes. Et on dit quoi au Brésil de sa santé, là, de sa cheville?
Ça reste incertain où est-ce qu'il va. Enfin, le huitième de finale, c'est lundi. Ça va arriver très vite. Là, il a fait des exercices de physiothérapie. Il a avec un petit peu avec le ballon, mais ça reste une énigme. Et puis, en plus, c'est la Corée du Sud, donc ça fait peut-être un peu moins peur que l'Uruguay, le Portugal, par exemple. Donc, il y a peut-être l'opportunité de le laisser sur le banc et puis de le faire entrer en jeu en cas de besoin au cours du match.
Gilbert, c'est surtout justement, ça.
Bonsoir. Attends, Olivier Goldstein, oui, vas-y, Olivier.
Juste une question, Marcelin, bonsoir. Justement, comment s'est perçu au Brésil de jouer contre la Corée du Sud? Est-ce qu'il dit c'est facile, on est déjà en quart? Est-ce qu'il se méfie un peu parce qu'ils ont battu le Portugal?
Je m'étonne que l'Uruguay, ils auraient flippé.
Excuse-moi, tu peux répéter la question, je n'ai pas entendu.
Oui. Le temps que la question arrive au Brésil, elle fait le tour du monde, tu vois.
Je disais, est-ce que les Brésiliens, ils ont sauté de joie quand ils ont vu le but de la Corée du Sud qui les qualifie aux dépens et qui les font jouer contre le Brésil aux dépens des Uruguayens? Est-ce qu'ils pensent que c'est facile et qu'ils sont déjà en quart de finale? Ou est-ce qu'ils réclament déjà le retour de Neymar après cette défaite en disant qu'il faut vraiment toutes les forces vives pour passer les huitièmes?
Non, je pense que le tableau est assez ouvert. On craint beaucoup moins la Corée du Sud que l'Uruguay. Japon ou Croatie, je pense que le Japon a un coup à faire. Donc on pense plutôt à la limite déjà à demi-finale contre l'Argentine ou la finale contre la France.
Merci Marcelin, merci beaucoup. La Ligue 1 n'est pas super, hein, donc on va arrêter. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas donné encore le tableau des huitièmes.
C'est ça la bonne nouvelle pour le Brésil, hein, parce que
le Brésil, ils ont le boulevard.
Jusqu'en demi,
l'autoroute devant eux.
Si on nous avait dit en début de compétition qu'ils allaient affronter la Corée du Sud, bon, va falloir gagner, bien évidemment, et ou la Croatie et le Japon pour aller en demi-finale.
Incroyable. C'est incroyable. Je pense qu'ils peuvent même attendre Neymar en demi-finale, quoi.
Ouais. Enfin, après, il va falloir gagner les matchs, bien évidemment.
Non, bien sûr.
C'est du monde, mais bien évidemment.
Exactement. Je vais faire ça de façon didactique. Vous imaginez, là, vous qui écoutez la radio, un tableau de cartes finales. Tout en haut, vous avez Pays-Bas, États-Unis, Argentine, Australie. Donc les deux huitièmes et les deux vainqueurs s'affronteront. Ensuite, Japon, Croatie, Brésil, Corée du Sud. Donc là, on peut estimer que le Brésil par favori. Sur le premier, tout en haut, on peut estimer que c'est l'Argentine qui est la favorite. Ensuite, Angleterre, Sénégal, qui affrontera le vainqueur de France, Pologne. Bon là, il y a le fameux France-Angleterre éventuel. Quand même, on peut pas considérer qu'on est un énorme favori, les gars. Je pense que vous êtes d'accord.
France-Angleterre, 50-50.
France-Angleterre, ouais, 50-50.
Voilà. Et puis tout en bas, on a Maroc, Espagne et Portugal, Suisse. Ou là, on peut peut-être considérer que l'Espagne nous a montré plus que le Portugal.
Ouais, je suis pas sûr du tout.
Mais on pourrait avoir des quarts de finale quand même de très très grande qualité. Ouais. On pourrait avoir par exemple un Argentine-Pays-Bas, un Croatie-Brésil, un Angleterre-France et un Espagne-Portugal.
Ce serait magnifique.
Ça va bien qu'au Brésil, ils attendent la France en finale, ça va parfait. Hein.
Bah, ce qui donnerait.
Qui refoute Leonardo au marquage de Giroud.
Mais il y a quand même un tableau plus dur que l'autre, quand même. Le tableau des Européens là, qui vont se tirer la bourre pour arriver en demi, il va avoir de la casse. Hein.
Surtout que les Européens, ils ont le Maroc et le Sénégal. Le Maroc et le Sénégal, je pense que c'est quand même au-dessus des États-Unis et de l'Australie, par exemple.
Signaler un truc qui n'est jamais arrivé en Coupe du Monde. On en a parlé pendant le match tout à l'heure. Tous les continents sont représentés.
Oui, ça c'est.
C'est jamais arrivé. Océanie, Amérique du Sud, Amérique du Nord, enfin, bon, Europe évidemment, Afrique, Asie, tout, voilà, tout le monde est là.
Mais ça c'est très bien.
C'est la Coupe du Monde.
Et pendant cette compétition, et notamment sur les 2-3 derniers jours avec les nombreuses surprises, j'ai parlé du nivellement des valeurs intrinsèques des équipes, des joueurs. Aujourd'hui, tous les joueurs asiatiques, en tout cas la moitié des équipes, ils évoluent en Europe. C'est pareil pour les Africains. Bon, ça c'est depuis longtemps. Donc au final, aujourd'hui, ils se préparent tous dans les meilleures conditions et petit à petit, chaque fédération travaille de mieux en mieux et il y a de moins en moins d'écart, même si tu retrouves quand même bien sûr certaines nations devant, parce que nous, par exemple, on a quand même un système de formation qui est quand même excellent et qui permet, avec la masse de joueurs qu'on a, notamment en région parisienne, d'avoir toujours une irrigation de talents, tout comme les Brésiliens ou les Argentins. Mais il y a toujours quand même des pays qui arrivent à travailler de mieux en mieux.
Dans quelques instants, on revient, on va parler de la Serbie éliminée, la Suisse qualifiée et ensuite le groupe de l'Uruguay. Olivier Emmanuel était au match en plus. Donc voilà le programme jusqu'à 23h. Ensuite, il y aura l'équipe de France et le bilan du premier tour d'ici minuit. À tout de suite.